Radio Kapi.
Le journal Blaise Shindali Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les sommaires de ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo ont regagné lundi 17 novembre la terre de leurs ancêtres triomphants après leur victoire face aux Super Eagles du Nigeria lors des barrages africains. Point de chute, le stade des martyrs où les attendaient le couple présidentiel et une foule nombreuse en liesse acquise à leur cause. Le trafic routier est resté paralysé ce lundi sur l'axe routier Bukavu-Miti-Ombo, conséquence des attaques menées par les rebelles du M23 contre les Wazalendo dans le territoire de Kabare au sud Kivu. Les détails dans un instant. Au Kasaï central, la ville de Mbujimayi dispose de plusieurs sites à potentiel touristique, mais ceux-ci restent pour l'instant peu ou pas aménagés. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Francis Mouya, chef de bureau à l'Agence provinciale de l'Office national du tourisme. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin. Les léopards de la République démocratique du Congo ont regagné lundi 17 novembre le sol de Kinshasa triomphant après leur victoire face aux Super Eagles du Nigeria lors des barrages africains. À bord de leur bus officiel, ils ont transformé leur retour en un véritable carnaval à travers les rues de la capitale jusqu'au stade des martyrs où les attendait un public en liesse et les officiels congolais avec à leur tête le couple présidentiel. Des Congolais massés le long de l'itinéraire mais aussi installés au stade des martyrs ont tenu à féliciter les fauves congolais pour cet exploit. Blaise Vakasinandes résume dans ce reportage, la journée de l'équipe nationale.
C'est dans un stade de martyrs acquis à leur cause que les léopards tombeurs des Super Eagles du Nigeria et des lions indomptables du Cameroun ont été accueillis par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État, prenant dans ses bras chacun des joueurs et membres du staff technique, leur a transmis les félicitations de la nation et rappelé combien ils ont rendu fiers les Congolais. Le président Tshisekedi a invité les Congolais à faire bloc derrière l'équipe nationale, appelé à disputer les barrages intercontinentaux, ultime étape avant une qualification définitive pour le mondial. Dans une brève cérémonie, le chef de l'État a remis le drapeau national au capitaine Chancel Mbimba en signe de confiance et de soutien total de la nation. Ce geste solennel s'accompagne d'une mission claire, qualifier la RDC pour la Coupe du Monde 2026. Le public, lui, nourrit une attente immense. Voir enfin la RDC participer à une Coupe du Monde, une compétition que la nation n'a plus disputée depuis 1974. La RDC, candidate du continent africain, tentera de valider son billet lors du tournoi intercontinental prévu en mars prochain au Mexique. Ces barrages détermineront les derniers qualifiés pour le mondial 2026.
Baisse prix de carburant observée depuis ce lundi matin à Kinshasa. Ceci fait suite à une décision du gouvernement annoncée vendredi dernier. Le prix du litre d'essence est passé de 2690 à 2440 francs congolais et de 2680 à 2430 francs congolais pour le gasoil. Sur le terrain ce lundi, certaines stations-service appliquent déjà le nouveau tarif, mais nombreuses gardent encore l'ancien prix. On écoute ce reportage de Rachel Kalombe rendu par Enoch Katumbi.
Cette baisse du prix des carburants n'est pas appliquée ce lundi dans plusieurs stations-service de la ville. Celles situées sur les trajets allant de Limété au rond-point Victoire ont vendu ce lundi à l'ancien tarif. Certains responsables de ces sites disent vouloir évacuer leur ancien stock pour ne pas connaître des pertes. Pour éviter de perdre justement, certaines autres stations ont arrêté de vendre en attendant l'application du nouveau tarif. Ce qui complique la vie des nombreux conducteurs d'engins motorisés. C'est le cas de ces chauffeurs.
Actuellement, les stations ne vendent pas. C'est le gouvernement qui est à la base de la dépréciation du dollar ainsi que la baisse du prix des carburants. Maintenant, nous ne savons quoi faire.
De son côté, Desgrâce Nkoso, une cliente, se plaint de cette rareté qui tombe pile au moment où les prix baissent. Elle demande au gouvernement de faire le suivi. suivies pour que cette mesure soit respectée sur terrain.
Il n'y a pas de carburant. En même temps, le prix n'a pas baissé. On dit que le prix a baissé, mais quand tu arrives à la station, c'est pas du tout comme ça. Déjà, il n'y a pas de carburant et le prix n'a pas baissé. On ne sait pas quoi faire.
Beaucoup d'Équinois et Quinois espèrent une amélioration rapide de la desserte en carburant par les stations pour que la circulation revienne à la normale.
Et puis, la vérification des permis de conduire et des documents de contrôle technique des véhicules est reportée à ce mercredi à Kinshasa. Cette décision vise à permettre aux Quinois de célébrer pleinement la victoire des Léopards face au Nigeria, un pas important vers la qualification à la Coupe du Monde de football. Initialement prévue pour ce lundi, cette opération avait pour objectif de remettre de l'ordre sur les routes de la capitale et d'assurer des déplacements plus sûrs. Cependant, malgré le report, des éléments de la police et de l'hôtel de ville chargés de ces contrôles restent visibles sur certaines artères, comme sur l'avenue des Écuries. En Galiema, notre reporter Lucky Nzao a fait les constats sur le terrain. Voici son reportage.
Ce contrôle technique doit permettre la vérification de l'état des véhicules roulant à Kinshasa. Malgré ce report, l'on peut compter moins de véhicules que d'habitude sur certaines artères réputées pour des forts embouteillages. Par exemple, l'avenue des Écuries en partant de la paroisse Saint-Léopold jusqu'à Kintambo Magasin est souvent le théâtre d'énormes embouteillages, mais ce matin, elle a présenté l'image d'une route étrangement dégagée. Au niveau des Kintambo Magasin, les éléments de la police nationale ainsi que ceux de la brigade de l'environnement sont déployés justement pour effectuer ces contrôles. La phase de sensibilisation a débuté le 10 novembre dernier. Le ministre provincial des Transports appelle les conducteurs des taxis et motos à adhérer à cette démarche citoyenne, présentée comme un pas important vers un transport urbain plus sûr et respectueux des usagers.
Je le disais tout à l'heure en titre, le trafic routier est resté paralysé ce lundi sur l'axe routier Bukavu-Miti-Ombo, conséquence des attaques menées dans la matinée par les rebelles du M23 contre les positions des Wazalendo dans les territoires des Kabare au sud Kivu. Ronaldine Tibonera pour les détails.
Selon des sources militaires dans la zone, cette fois-ci, les rebelles ont ciblé la position de Wazalendo, connue sous le nom de Météo, située dans le parc national des Kahuzi-Biega. Ces affrontements, impliquant des armées lourdes et légères, ont perturbé toutes les activités champêtres économiques dans la région. Les mototaximens en provenance ou en partance pour Kalonge et Bunyakiri ont été contraints de rebrousser chemin, craignant pour leur sécurité. Des notables locaux évoquent une volonté manifeste du M23 de forcer un passage vers des entités comme Kalonge et Bunyakiri, actuellement contrôlés par les Wazalendo. Des sources proches de la rébellion justifient ce manœuvre militaire comme une réponse aux opérations menées par les FRDC et leurs alliés. Des accusations balayées d'un revers de la main par les forces loyalistes. Lundi dernier, le porte-parole de FRDC, le major général Sylvain Akenge, avait mis en garde le M23 et ses alliés contre toute attaque visant les positions de FRDC. Moins d'une semaine après ces déclarations, les rebelles du M23 se sont emparés des villages Maïmingi 1 et 2 dans les territoires de Shabunda.
Pendant ce temps, en Ituri, les activités ont repris normalement ce lundi à Babungbe, dans le territoire de Mambasa, au sud-ouest de Bunia. Cela fait suite à 2 jours de psychose provoquée par un mouvement de colère de certains militaires ougandais. Samedi, ces soldats avaient tiré plusieurs coups de feu en l'air pour réclamer plusieurs mois de soldes impayés. Selon des sources sécuritaires, ces détonations ont semé la panique au sein de la population qui a cru à une attaque des ADF. Les activités socio-économiques ont ainsi été perturbées pendant 2 jours sur l'axe Mambasa-Loloa à environ 40 km de Bunia. Pour rappel, l'armée ougandaise est engagée dans des opérations conjointes contre les rebelles ADF actifs dans cette région. Dans la province du Maniema, une équipe du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRS séjourne dans les territoires de Kabambari pour une mission de sensibilisation des groupes armés. L'administrateur du territoire espère que la présence de ce programme est une opportunité pour le retour de la paix dans la province du Maniema et du Sud Kivu, principalement dans les territoires de Kabambare, Kasongo et Shabunda. Walubangi Katuta Albert, au micro de Jean Kassami.
Comme ce programme vient d'arriver, nous osons croire qu'ils vont s'installer et ils auront à travailler afin de nous aider à sensibiliser nos frères Maïmaï Malaïka et les Wazalendo, afin qu'ils adhèrent au programme du PDDRCS sur place ici à Wamaza. C'est quelque chose qu'on réclamait à corps et à cri. Là, ça nous soulage un peu de voir ces agents sur place. J'invite tout celui qui est de Kabambare qu'il essaye d'accompagner ce programme conçu par les chefs de l'État afin qu'on ait une paix durable dans notre territoire de Kabambare. Nous invitons aussi les coordonnateurs provinciaux et nationaux. Comme les agents sont déjà sur terrain, c'est une mission qui n'a pas droit à défaillir. Aussi, nos frères Maïmaï et Wazalendo, c'est une occasion à ne pas rater, puisque si vous ne voulez pas adhérer à ces programmes, là, on va vous taxer seulement comme un rebelle. Le gouvernement ne croisera pas les bras. Il va aussi prendre des dispositions pour ceux-là qui vont faire des résistances. J'invite aussi la population en entièreté. Chacun peut appuyer ces programmes d'une manière ou d'une autre.
Dans le chapitre de l'éducation au Kasaï oriental, lancement ce lundi à Mbujimayi du projet d'équité et de renforcement des systèmes éducatifs PERS. La cérémonie présidée par le ministre provincial en charge de l'éducation. Ce projet, dont le coût total est de plus de 130 000 dollars, vise à améliorer l'accès à l'éducation de qualité en luttant contre les violences, abus et harcèlement sexuel dans les milieux scolaires. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au Kasaï oriental, ce projet sera implémenté pendant 9 mois par un consortium de 6 organisations locales. Dans cette phase de prolongement, ce projet va se focaliser sur 2 provinces éducationnelles, dont Kasaï 1 et 2. D'après Merveille Ngalula, chef de file du consortium, ce projet prévoit d'abord la prévention et la réponse. Des formations et des sensibilisations seront effectuées dans le but d'éradiquer les violences, les abus et le harcèlement sexuel en milieu scolaire.
Quelques mesures clés de prévention et des réponses. Il s'agit de la signature par le personnel enseignant et administratif des écoles d'un acte d'engagement au respect du code de bonne conduite.
Léonard Mukenge, représentant du projet PERS au Kasaï oriental, a demandé aux membres du consortium de se mettre au travail pour atteindre les objectifs.
Les objectifs que vous vous êtes assignés vous-même, vous avez un cahier des charges, que vous puissiez les respecter.
Le ministre provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté, Nico Mamba, a promis d'accompagner ce projet à travers la lutte contre l'impunité.
Quand il y a les cas qu'on n'a pas puni, nous on doit remonter, aller très loin pour dénoncer.
Signalons qu'un numéro vert 178 à l'eau école a été communiqué à toute la population pour la gestion des plaintes des VBG. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Restons dans la région, Caritas Développement Luebo rejette les accusations de détournement d'un mois de salaire porté contre elle par des enseignants de la sous-province éducationnelle 2 du Kasaï et du Kasaï central. En colère, ces professionnels de la CRE ont barricadé des routes et proféré des menaces à l'endroit des agents payeurs de la Caritas. De son côté, la Caritas se défend, expliquant qu'elle ne fait que gérer et distribuer les fonds qui lui sont transférés par les autorités compétentes et qu'elle n'est pas à l'origine des retards constatés selon son coordonnateur. On écoute les précisions du père Pierre Moulumba au micro de Jeff Ngoï Moulonda.
L'accusation portée contre la Caritas par les enseignants est fausse. Nous ne savons pas de quelle source ils tirent l'information selon laquelle la Caritas aurait reçu 2 mois de leur salaire et ne leur a donné qu'un seul mois. Pourtant, la Caritas n'a reçu qu'un seul mois, le mois de septembre, et c'est ce mois de septembre qui leur a été apporté. Mais il y a eu des actes tels que des jets de pierre, des routes barricadées, des cris, des menaces sur nos agents payés. Ce qui ne se justifie pas. Il s'agit de la sous-province éducationnelle Kasaï 2. Donc,
revenons à Kinshasa avant d'aller plus loin. Durant ses 100 premiers jours, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement s'est réjoui d'avoir posé les jalons d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement et les institutions parlementaires du pays. Guy Luando a exprimé sa satisfaction lors d'un échange ce lundi avec des journalistes à Kinshasa. Il a notamment évoqué l'installation d'une académie parlementaire destinée à remettre à niveau non seulement les élus, mais également les membres de toutes les institutions publiques. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers ces différentes réformes, le ministre des Relations avec les Parlements affirme vouloir assurer la stabilité institutionnelle, la transparence de l'action publique et l'efficacité de la gouvernance à travers les pays. Guy Luando indique avoir la responsabilité de faire fonctionner les institutions de manière harmonieuse en garantissant un dialogue permanent et transparent entre gouvernement et Parlement. Ces membres du gouvernement souminois se présentent comme un pont stratégique entre exécutif et législatif permettant d'anticiper les défis, de fluidifier l'examen des projets de loi et de renforcer la cohésion institutionnelle au service de la population. Parmi ces réformes, il cite notamment la mise en place de l'Académie parlementaire et la saison d'évaluation du gouvernement. Dans le cadre du programme du gouvernement 2024-2028, Guy Luando dit assurer le suivi des projets législatifs tels que les projets de loi sur les barrages Inga en collaboration avec les ministères des ressources hydrauliques. Reste que toutes ces réformes visent à apporter du concret non seulement dans les paniers de la ménagère, mais également dans les vécu quotidiens des Congolais.
Actualité internationale.
Au Sénégal, dans un entretien accordé à la télévision nationale dimanche 16 novembre, Cheikh Ba, le président de l'Union des magistrats, fustige un appareil judiciaire en proie à un manque chronique de personnel qui l'empêche de fonctionner normalement et appelle à un recrutement massif des magistrats et des greffiers pour redonner de la crédibilité à l'institution.
L'invité.
Au Kasaï oriental, la ville de Mbujima dispose de plusieurs sites à potentiel touristique, mais ceux-ci restent pour l'instant peu ou pas aménagés. Parmi ces espaces figurent notamment plusieurs hôtels construits par des opérateurs économiques privés qui tentent de valoriser l'image de la ville et d'accueillir les visiteurs dans des meilleures conditions. L'agence provinciale de l'Office national du tourisme assure pour sa part qu'elle encadre le secteur de l'hôtellerie et qu'elle travaille à structurer cette activité pour en faire un véritable levier de développement touristique au Kasaï oriental. Francis Mouya, chef de bureau à l'agence provincial de l'Office national du tourisme et l'invité de la rédaction. Il répond aux questions d'Esther Ndalafina.
Bonjour, Monsieur Francis Mouya.
Bonjour, Madame.
Votre service a-t-il déjà identifié certains sites touristiques qui se trouvent sur la ville de Mbujima?
Oui, effectivement, nous avons eu à identifier certains sites qui se trouvent sur la ville de Mbujima. Notamment, nous avons le monument de Bonzola. Nous avons un nouveau musée qui vient de naître, musée national juste sur l'avenue Kalonji. Nous avons le monument de Tchombe. Nous avons le musée qui se trouve même dans la cathédrale de Bonzola et l'église même catholique qui se trouve à l'intérieur, il y a un musée. Et aussi, nous avons le polygone minier de la Miba. Donc, si quelqu'un veut aller visiter, il passe par notre service. Nous faisons une lettre de demande à qui de droit. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas assez. Mais du moins, à part les sites dont j'ai eu à énumérer, il y a aussi des hôtels aussi qui sont d'ailleurs des sites touristiques. Parce que lorsque un touriste ou un étranger qui vient d'ailleurs a besoin d'aller où loger. En allant visiter certains hôtels, il peut prendre des selfies comme les gens ont l'habitude de prendre des selfies, garder des images.
Est-ce que ces sites sont visités?
Effectivement, ces sites sont visités. Dernièrement, lors de tourisme scolaire, nous avons eu à visiter avec les élèves de l'école EDAP le musée de la cathédrale Bonzola. Il y avait un guide qui était là sur place. Il expliquait les différentes choses qu'il y avait à l'intérieur. Et après là, on a eu à aller en excursion, visiter le site photovoltaïque. Nous sommes allés jusqu'au site de lac Lomba. Ces sites sont visités. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait aussi visiter les différents sites, connaître la ville de Mbujima, les portes sont ouvertes à l'Office national du tourisme pour accompagner la personne.
Comment faites-vous donc la promotion du tourisme au Kasaï oriental?
Nous le faisons en collaboration avec nos partenaires qui sont les opérateurs du secteur, les hôteliers. En parlant d'abord des hôtels, on leur montre les hôtels. Lorsqu'il y a un étranger, un touriste qui arrive sur place, nous lui parlons des différents hôtels que nous avons. Je peux citer, nous avons l'hôtel Métropole, Gloria, Gertrude Hôtel, et nous avons leurs flyers. On leur montre les photos. La personne peut apprécier au travers les photos, les vidéos, les images que nous avons dans les réseaux sociaux. On fait la promotion des hôtels et il y a aussi des restaurants. On leur montre aussi les images des différents sites touristiques que nous avons, notamment Source Le Lukelenge, Lomba et autres sites. Si la personne apprécie et les mérite, venez aussi à les visiter. Nous avons la possibilité aussi de l'accompagner pour visiter et se mettre en contact avec la nature.
Est-ce que le secteur touristique rapporte de l'argent à la province du Kasaï oriental?
Dans les années qui viennent, on pourra voir dans la mesure du possible comment faire pour développer. Ça fait partie des projets de développement de la province. Actuellement, là, elle ne rapporte pas dans l'économie de la province. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites touristiques qui ne sont pas aménagés. Mais du moins, dans nos projets, nous avons mis en place des projets à la recherche des partenaires qui peuvent aménager les différents sites touristiques afin que la population, lorsqu'elle viendra, commencera à visiter les différents sites touristiques. Ça pourrait générer des revenus à la province.
Quelles sont les difficultés auxquelles le secteur touristique est confronté actuellement?
La difficulté provient d'abord de la culture. Voilà pourquoi nous avons commencé au bas de l'échelle en allant dans le tourisme scolaire. Nous expliquant à nos différents élèves l'importance du tourisme. C'est en allant du bas de l'échelle que nous irons graduellement pour faire comprendre aux gens l'importance du tourisme. Mais du moins, nous pensons que au fur et à mesure, lorsqu'on mettra en place les structures qu'il faut, lorsqu'on va aménager bien nos sites touristiques, plus on fait la promotion dans les écoles, en contact avec les parents et même dans les différents frais scolaires, on intègre l'aspect touristique et lorsque les enfants iront auprès de leurs parents. Non, papa, on est allé visiter tel site. Ça va susciter aussi un intérêt auprès des parents. Au fur et à mesure, nous verrons que cette culture-là de tourisme va s'épanouir et va atteindre le plus grand nombre de la population du Kasaï oriental.
Monsieur Francis Mouya, merci.
Merci beaucoup, madame, pour votre
invitation. C'était notre invité Francis Mouya qui s'entretenait avec Esther Ndalafina et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal coordonné par Vicky Odia, supervisé par Polly Mouzalia et mise en onde par Billy Landry-Betou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.